garder contact avec quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir et qui n'a pas envie de discuter avec vous, c'est une épreuve, hein, bien sûr. Mais ça va être un moyen de quand même pouvoir essayer de contrôler l'aspect financier, vérifier que quand même il ou elle n'arrête pas son travail, n'a plus de revenus, ne donne pas tout son argent au gourou. Vérifier son état de santé, c'est-à-dire si tout d'un coup il est dans une situation qui vous inquiète vraiment.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. C'est un mal de notre époque en matière d'alimentation. Un phénomène silencieux, mais pas moins destructeur, qui isole chaque année des milliers de personnes de leur entourage. Entre 2015 et 2020, les signalements de dérives sectaires liées à la santé et au bien-être ont doublé. La Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, alerte sur le danger des mouvances et groupes qui appellent à des régimes carencés. Ces modes d'alimentation ont tous un point commun. Ils mènent à un affaiblissement physique de l'individu qui devient alors moins résistant à des manipulations psychologiques. Un mécanisme de domination bien ficelé par les nouveaux gourous de l'alimentation. Jeûner à outrance, ne manger plus que de l'air, exclure les aliments cuits, les dérives sectaires dans l'alimentation sont nombreuses. Dans cette série, nous allons plus précisément plonger dans les rouages du crudivorisme, que l'on appelle également alimentation vivante, une pratique alimentaire qui prône la consommation exclusive d'aliments crus. Séduisant de par ses promesses d'une meilleure santé loin des diktats de l'industrie pharmaceutique, ce mode de vie repose aujourd'hui sur une constellation de vidéos et de livres mettant en scène l'idée d'un complot, de vérité cachée. Entre déficit alimentaire, complications de santé et isolement social, les dangers sont pourtant grands. Mais dans un monde en perte de repères, contrôler à outrance son alimentation est devenu une manière de donner du sens à son existence. Comment les idées de nourriture et spiritualité s'imbriquent-elles aujourd'hui? Que racontent ces mouvements de notre rapport à la nature? En quoi l'obsession du manger sain peut-il conduire à une détérioration de notre organisme? Et en filigrane, qu'est-ce que ces dérives sectaires disent de notre rapport au monde contemporain? Cela fait maintenant 2 semaines que nous parlons ensemble dans cette série Bouffon de crudivorisme, et plus précisément des dérives sectaires possibles liées au crudivorisme lorsqu'il devient un mode de vie 100% cru, excluant absolument tout autre aliment. Le crudivorisme, dans ces cas-là, est bien plus qu'un régime alimentaire. Il est, selon les préceptes de Thierry Casasnovas, un moyen de soigner des maladies, dont le cancer. Cela fait 2 semaines que l'on parle de crudivorisme, donc, et c'est aussi à peu près le temps qu'il a fallu aux adeptes de Thierry Casasnovas pour réunir pas moins de 100 000 euros à travers une cagnotte en ligne. Il et elle ne savent pas encore bien ce qu'il va être fait de cette généreuse levée de fonds, mais une chose est sûre, l'idée est de défendre coûte que coûte leur gourou, Thierry Casasnovas, actuellement mis en examen pour, entre autres, des chefs d'abus de confiance et de faiblesse, faux et usage de faux et exercice illégal de la médecine. Pour la secrétaire d'État à la citoyenneté, Sonia Backès, cette cagnotte est une initiative indécente. Cet argent serait mieux utilisé dans la lutte contre le cancer. J'invite donc M. Casasnovas à faire un don équivalent à la Ligue contre le cancer, a-t-elle exhorté. Crudivorisme et cancer, voilà certainement la face la plus sombre de cette dérive sectaire. On le disait, le crudivorisme tel qu'on en parle dans cette série n'est pas celui qui consisterait à parfois manger cru le temps d'un repas, un crudivorisme ponctuel qui viserait à se limiter à du cru le temps d'une assiette, le temps d'une salade de crudité par exemple, ce qui vous est forcément déjà arrivé. Non, le crudivorisme dont nous parlons dans cette série, c'est bien la pensée 100% crue qui consiste à dire que l'on peut guérir de maladies graves uniquement grâce à son coup de fourchette. C'est donc une doctrine qui éloigne des personnes malades de leur prise en charge, des personnes souffrant de cancer qui finissent par se détourner complètement de leurs soins jusqu'à y perdre la vie parfois. Chez Bouffon, sortir cette série liée à un épineux sujet d'actualité, une controverse qui agite autant de points de vue et touche à une communauté aussi importante que celle de Thierry Casasnovas, qui est suivie sur YouTube par plus de 600 000 personnes, c'est une expérience en soi. Depuis que nous traitons cette thématique, les messages affluent. Si la plupart des auditeurs et auditrices nous remercient pour la rigueur de notre travail, d'autres estiment que nous sommes à la botte des lobbies pharmaceutiques. Une critique pour le moins étonnante, car expliquer aux côtés du biophysicien et chercheur au CNRS Christophe Lavelle qu'il vaut mieux manger de tout pour être en bonne santé et pointer du doigt aux côtés de Francine Comel, la vice-présidente nationale du Centre contre les manipulations mentales, qu'il est dommageable de se laisser mourir d'un cancer parce qu'on pense pouvoir en guérir en mangeant 100% cru, tout cela, me semble-t-il, n'a pas grand-chose à voir avec le fait de faire la promotion d'une industrie pharmaceutique. Finalement, je ne peux m'empêcher de voir ces réactions ulcérées comme l'illustration, la confirmation, s'il en fallait une, que chez beaucoup de personnes sous emprise, la pensée crudivoriste de Thierry Casasnovas ne laisse que peu de place au dialogue et à la subtilité. Alors, après avoir parlé de l'importance d'une alimentation variée et des mécanismes de l'emprise mentale dans les deux premiers épisodes de cette série, nous consacrons ce troisième volet aux proches des personnes victimes de sectes. À quoi reconnaît-on une personne tombée dans une dérive sectaire? Comment faire pour continuer à être présente pour elle? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour ne pas rompre le dialogue? Est-il possible de sauver une personne? Dans cet épisode, je m'entretiens avec Marie Drion.
Je suis Marie Drion, je suis vice-présidente de l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes d'emprise sectaire. Et je suis aussi présidente de l'ADFI des Yvelines, dont le siège est à Versailles.
En tant que représentante de l'UNADFI, Marie Drion est aussi partie civile dans l'affaire Thierry Casasnovas, ce qui veut dire qu'elle fait partie des organismes qui ont initié une plainte contre le gourou. De ce fait, elle ne pourra pas nous livrer beaucoup de détails concernant cette affaire qui est actuellement en cours. Ce qui ne l'empêchera pas néanmoins d'analyser avec nous le phénomène du crudivorisme, son retour en force depuis la pandémie, avec un nombre de signalements en hausse ces 5 dernières années, comme on l'a entendu lors des premières assises nationales contre les dérives sectaires qui ont eu lieu cette année, et enfin les moyens à la disposition des personnes qui voudraient aider leurs proches et victimes.
Alors Thierry Casasnovas, ça fait pas mal d'années que nous avons ce qu'on appelle des signalements, c'est-à-dire des interrogations dans l'ensemble de nos associations. Donc ce sont des signalements qui sont faits par des particuliers et la plupart du temps à propos de changements de comportement et d'inquiétudes sur un de leurs proches. Dans les alertes ou les signalements qu'on a eus, donc à partir du moment où on a eu des demandes, on a commencé à regarder de plus près, on a retrouvé la filière effectivement, enfin chez lui, la lignée du manger cru qu'on connaissait déjà puisque dans les années 90, on avait été confronté à l'instinctothérapie avec Guy Claude Burger. Alors Casasnovas, lui, il a pris un peu, pas exactement la même filière, mais enfin, ça tourne autour de la même chose, le manger cru, etc. Et puis après, si vous voulez, par exemple, dans certains témoignages, certains signalements, pourquoi les personnes nous appelaient? Parce que leurs proches changeaient catégoriquement, non seulement d'alimentation, mais de vision du monde. Parce qu'en fait, c'est ça. L'emprise sectaire, si vous voulez, on la reconnaît à la triple rupture. La rupture avec soi-même, avec le changement de vision du monde, de valeurs, de convictions et de comportement. La rupture avec l'entourage et la rupture avec la société. En fait, plusieurs témoignages nous expliquaient que le proche ne pouvait plus parler avec ceux qui ne pensaient pas comme lui. C'est-à-dire que sa nouvelle vision du monde avec ses explications, parce que Thierry Casasnovas, il donne des explications quand il explique qu'est le cancer ou que pour le sida, il faut faire ceci, etc. Et il n'y a plus moyen d'émettre un doute. On pose des questions, mais il n'y a plus aucune réponse n'est valable autre que celle de Casasnovas. Et à ce moment-là, c'est déjà bien avancé en général, et on va vers la rupture avec l'ensemble de la famille, parce que les personnes qui sont dans cette communauté Casasnovas, entre guillemets, sont tellement convaincues qu'aucun autre argument ne peut rentrer. Il n'y a pas de discussion rationnelle possible.
Donc un refus de prendre en compte d'autres visions du monde, une impression de détenir la vérité absolue.
Alors avec ensuite, c'est vrai, en plus très souvent, qui va rendre la sortie très difficile, souvent, il y a aussi dans l'emprise sectaire, du coup, un sentiment d'avoir la vérité et un sentiment d'être dans l'élite qui a la chance de savoir. Et ça, ça complique aussi le moment de la sortie si les doutes arrivent, parce que quelquefois ils arrivent quand même. Mais en tout cas, sur Casas Novas, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et puis la pandémie a été vraiment un révélateur extraordinaire, parce que ça, c'est des choses que nous savions depuis longtemps. Toujours pareil, hein, à cause des témoignages, parce que les informations viennent par les gens qui nous appellent et qui nous signalent des choses. Donc Casas Novas, on le connaissait depuis longtemps, lui et d'autres. Et puis la pandémie a été, avec le confinement, un révélateur incroyable et malheureusement aussi un facteur de développement de ces communautés sur le net, qui se traduisent aussi d'ailleurs après, une fois que le confinement a été terminé, par des stages et des rencontres pas virtuelles, hein, des rencontres en visio. Mais la pandémie a déclenché ça, et on comprend, hein, avec l'inquiétude, la difficulté, ça a été une épreuve pour beaucoup de personnes dans la société.
Concrètement, cette pandémie, j'imagine que c'est aussi parce que donc il y a eu ce moment de crainte, de bouleversement, de perte de boussole sociétale où on s'est dit il y a une pandémie qui est en train de terrasser l'humanité tout entière, on cherche donc des réponses. Et j'imagine qu'en plus de ça, il y a eu aussi l'augmentation du temps passé en ligne et peut-être aussi pour certaines personnes le fait de communier avec d'autres virtuellement. Actuellement, plus que et à défaut de voir ses proches dans la vie réelle?
Absolument. Le confinement a été une épreuve vraiment difficile pour beaucoup de personnes. Parce que on était habitué à autre chose. Quand on avait un cercle un peu familial, on pouvait quand même voir un peu de personnes différentes, mais pour des personnes seules ou en tout cas facilement isolées, c'était compliqué. Et puis, je pense aussi que ça a accentué la fermeture en ce sens que des personnes qui avaient peut-être déjà une vision un peu sectaire de la société, du monde dans lequel on vit, des explications illusoires. Avant le confinement, ne serait-ce que d'aller au travail, d'aller dans des lieux où il y avait du monde, ça vous obligeait à rencontrer d'autres personnes qui pensaient différemment, parce que c'est comme ça qu'on rencontre forcément des gens qui pensent différemment. Et tout ça, ça a été supprimé. Donc ça a accentué l'accrochage à une communauté virtuelle. Et dans les témoignages, moi j'en ai eu un aussi comme ça, il y a eu effectivement un temps passé sur Internet qui n'était pas présent avant. Et c'est là que la personne en question a commencé à émettre des théories de plus en plus définitives et qui ont conduit à une vraie rupture. Donc c'est tout à fait exact. Le confinement a contribué à ça, dans une ambiance inquiétante à cause de tout ce qu'on ne savait pas sur la pandémie, des décisions que les gouvernements ont été obligés de prendre pour essayer de protéger les plus fragiles, enfin, etc. Quoi. C'est vraiment une période. Et là, il y a eu un développement des communautés virtuelles absolument colossal. Et ils en ont bien profité. Il faut reconnaître que quand on pense par exemple à la collusion des quatre, Thierry Casas Novas, Christian Talchaler, Jean-Jacques Crèvecoeur et Trottin, c'était quand même, si ça avait été un film, on pouvait se contenter de rire en disant ben vraiment ils s'amusent comme des fous, mais en fait leurs théories diverses se mêlaient en une théorie encore plus illusoire, quoi.
Donc, suite à cette pandémie, on a observé un regain, c'est ce que vous racontez, un regain d'alerte par rapport aux emprises sectaires?
Ah oui, très nettement. Alors, je dirais pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a eu une augmentation aussi de personnes qui ont rejoint ces théories-là. Mais je pense aussi parce que les médias ont donné plus de temps et d'espace un phénomène qui est un phénomène très complexe, celui de l'emprise sectaire. C'est un phénomène très complexe. On peut pas le traiter en 1 minute 40. C'est pas un format d'info facile parce que il touche aussi à la liberté de croyance, à la liberté de conscience. Donc voilà, on peut pas tout simplement dire il y a les bons et les mauvais. C'est pas vrai. C'est pas exactement comme ça, hein. L'arrivée au grand jour, vraiment, du complotisme, mais alors, je dirais, sans complexe, quoi. Parce que les complotistes, ils ont raconté leur théorie, voilà, ils avaient un public. Quoi, à travers Internet. Et c'est ça, je pense, qui a aussi beaucoup changé, parce que nous qui connaissions les questions sectaires, on savait que le complotisme était utilisé dedans, parce que pour exercer une emprise, il faut créer une peur de ce qui est différent pour confirmer la fermeture et l'enfermement dans une nouvelle théorie. Donc il faut que l'extérieur, les autres, etc., soient ou stupides ou dangereux, mais surtout dangereux. Il faut faire peur. On n'exerce pas d'emprise vraiment sectaire, hein, c'est-à-dire celle qui coupe, pas simplement de la séduction, une emprise sectaire. On ne l'exerce pas si on n'arrive pas à contrôler les adeptes. Et pour les contrôler, bon, il faut occuper tout leur temps, il faut, etc., il faut contrôler toutes les dimensions de leur vie. Et il faut qu'ils aient peur de ce qui n'est pas l'intérieur. Et c'est sorti tellement pendant la pandémie qu'on a pu parler des choses que plusieurs journalistes ont vraiment pris le temps de faire des articles pas superficiels, si vous voulez. Et je pense que ça a aussi alerté des personnes qui, du coup, ont appelé l'Ami Vidude ou nos associations. Parce qu'il y a certainement des gens qui ont des proches dans des mouvements sectaires ou des adeptes de mouvements sectaires qui en sont sortis et qui n'appellent pas nos associations, parce que c'est un phénomène dont on se défait difficilement et puis dont parfois on a un peu honte.
Donc cette crise sanitaire, finalement, elle a agi comme un révélateur de ce phénomène qui existe depuis bien longtemps, qui est un phénomène silencieux. On sait tous qu'il existe, mais on n'a pas forcément idée en détail de ce que ça représente tant qu'on n'a pas un proche directement touché. D'ailleurs, peut-être qu'on peut en profiter à ce moment de la discussion pour discuter de ces moyens de repérer lorsqu'une personne est tombée dans une dérive sectaire. Est-ce qu'il y a des caractéristiques assez pratico-pratiques que l'on peut repérer dans la vie quotidienne d'une personne qui a perdu son libre arbitre ?
Il y a effectivement des éléments qu'on peut repérer, mais malheureusement, ils sont souvent repérés un peu tard. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où l'entourage s'en aperçoit, ben, la personne est déjà bien prise dedans, parce que si c'est vraiment un mouvement sectaire installé, existant depuis certains temps, le début de la séduction ne se voit pas. C'est simplement une nouveauté, et en général, c'est ce que nous disent les proches, qui nous disent moi, j'étais contente, il faisait quelque chose qui l'intéressait, il a toujours été un petit peu intéressé par la spiritualité, par l'ésotérisme, par ceci, donc je pensais que c'était très bien. Et le moment où l'entourage va se réveiller en disant non mais c'est peut-être pas si bien que ça et devenir inquiet, c'est parce que ce sera déjà bien entré dedans. Il y a le changement de comportement, il y a presque toujours un changement d'alimentation, entre autres sur les problèmes de la santé. On va quasiment avoir des gens qui n'étaient pas végétariens mais qui le deviennent. Alors entendons-nous, hein, tous les végétariens ne sont pas dans des sectes, mais tous les adeptes de ces domaines-là sont végétariens à minimum. Voilà. Et ça, on va le voir, parce que la personne qui mangeait quand même un steak ou de la viande ou du jambon, etc., qui n'en mange plus, vous allez le voir. On va avoir souvent un nouveau vocabulaire ou certains mots qui vont revenir assez facilement, et qui n'étaient pas des mots qu'il utilisait avant. On va avoir des fréquentations, c'est-à-dire que des amis, c'est vraiment des amis de toujours, progressivement, ils vont plus les voir. On va avoir, peut-être, alors sur la santé, ben on a eu tous les aspects, c'est comme ça que ça a commencé, si vous voulez. Il y a eu le vaccin, avec des explications pseudo-scientifiques que la personne n'avait pas du tout avant, et sur lesquelles il n'a aucune compétence particulière.
Donc un jargon qui arrive subitement dans le vocabulaire de la personne et qui trahit finalement le fait que on lui a mis presque ces mots-là dans la bouche.
Alors c'est pas qu'on lui a mis, c'est que progressivement, si vous voulez, les personnes qui rentrent dans des mouvements sectaires ou qui sont sous l'emprise sectaire d'un gourou, etc., l'entrée, ils sont vraiment entrés librement. Hein. Ils n'ont pas été ligotés pour y rentrer. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, par exemple, qui ont suivi peut-être quelques vidéos de Thierry Casasnovas et puis qui ont tourné le dos en disant non, c'est trop, quoi. Donc ceux qui y sont, il a une force de conviction, pour prendre cet exemple-là, il n'est pas le seul, mais lui, il a vraiment, je trouve, quand on le voit sur scène ou faire ses vidéos, on sent le plaisir qu'il a à parler, à avoir un discours qui s'enchaîne et à avoir des trucs de battleur. Je peux pas vous dire autre chose. Je trouve que lui, il est vraiment très marqué par ça. Il y en a d'autres qui sont moins spectacles. Mais lui, Thierry Casasnovas, il partage avec son accent en plus, il partage le plaisir. Mais les personnes ont changé de vision du monde progressivement. On leur dicte pas, c'est par petites touches. Et comment ça se passe? Ben, par exemple, par l'établissement progressif du contrôle de toute la vie de la personne. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste sur un aspect qui vous convainc et qui est peut-être vrai d'ailleurs, hein. Voilà, c'est peut-être bien, par exemple, je sais pas le cas de Thierry Casasnovas, mais d'alléger son régime, de pas forcément beaucoup manger, etc. Vous voyez, vous commencez par des choses qui sont tout à fait banales, qu'on pourrait entendre ailleurs aussi. Et puis, par petites touches, on va donner donner rendez-vous à une autre vidéo, on va donner rendez-vous à une autre journée de stage, on va proposer une autre conférence. Et finalement, pour arriver à contrôler beaucoup du temps de la personne, à lui vendre aussi des livres, des CD, des vidéos à regarder, vous voyez comment l'univers progressivement se ferme ? Parce que tout le temps que vous passez là-dessus, vous ne le passez plus sur de la diversité.
Sur la diversité d'opinion qui peut aussi nourrir d'autres visions du monde et nous permettre de relativiser certaines...
Voilà, et progressivement, vous n'avez plus la possibilité, et c'est ça le but dans l'intentionnalité de l'emprise sectaire, il y a de couper la possibilité d'accéder à d'autres voies d'information, à d'autres voies de réunion, de contact, de rencontre, etc. Parce que l'idée est quand même de fermer, même si c'est une frontière virtuelle, c'est l'emprise sectaire avec une intentionnalité de enfermer les personnes, finalement, même dans des frontières virtuelles.
Alors maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais beaucoup qu'on profite de votre expertise pour pouvoir donner des conseils aux personnes qui ont peut-être dans leur entourage une personne elle-même donc tombée dans une dérive sectaire. Quels sont les premiers réflexes que l'on peut adopter face à cette personne ? Quelle attitude avoir lorsqu'on voit qu'une personne est en train de sombrer ? Et comment faire surtout pour ne pas rompre le dialogue, puisque vous parlez d'un isolement ? Comment on fait pour continuer à avoir une parole à peu près audible auprès de la personne embrigadée ?
Ça, c'est vrai que c'est très difficile, mais que c'est fondamental. C'est pas forcément une parole audible, c'est un contact en tout cas, et qui va souvent être non pas sur le fond, la théorie et le rationnel, mais qu'on va maintenir sur tous les liens affectifs possibles, ou les liens quotidiens possibles. Mais c'est vrai que quand on est confronté à ça, la réaction habituelle de ce que nous voyons, nous, c'est d'abord la panique. Quand vraiment ça arrive à un niveau où de se dire, mais il y a quelque chose qui est pas normal. Et donc, quand les personnes nous contactent, une des premières choses, c'est vrai, c'est d'abord de comprendre ce qui les inquiète, d'écouter ce qu'ils ont à dire, et puis, assez vite, de les informer sur ce qu'est l'emprise sectaire pour qu'ils comprennent et de les aider, comme vous le disiez, à adopter les attitudes les plus propices à maintenir le contact. Je vois bien que les personnes qui viennent souvent ont comme demande comment le sortir de là. Mais moi, je pense que c'est pas la première demande parce que, justement, j'ai pas de réponse à ça parce que la personne est sous contrôle dans son mouvement ou sous le contrôle d'un gourou sectaire. Si on veut le sortir, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, il va falloir utiliser des méthodes équivalentes de force, si vous voulez. Donc, c'est pas la bonne approche. La bonne approche, ça va être, un, de connaître d'abord, c'est-à-dire s'informer sur le mouvement ou la théorie dans laquelle il est rentré. Parce qu'on se bat pas contre un ennemi qu'on ne connaît pas. Là, on peut souvent aider les familles, parce qu'on a une certaine expérience, parce qu'on a une somme de documentation depuis 40 ans qui est quand même assez importante et que nous avons l'habitude de la façon de chercher les liens, de pouvoir trouver des relations entre certaines théories ou entre certains mots ou entre certaines pratiques, entre autres dans le domaine de la santé, parce que les pratiques dans le domaine de la santé sont multiples et ne cessent de se développer, et de pouvoir signaler s'il y a un vrai risque, d'abord immédiat, et ensuite, quelle est la théorie qui est dessous. Parce que du coup, après, ce qui est important, c'est de ne pas interpréter à tort la nouvelle attitude du proche. C'est-à-dire que oui, il coupe, il vous accuse de certaines choses, mais au lieu de prendre au pied de la lettre ces accusations, d'essayer de comprendre qu'en fait, c'est le mouvement dans lequel il est, la doctrine dans laquelle il est, qui fait qu'il est devenu cet être qui vous accuse ou qui veut couper avec vous, etc. Voilà, pour pas se tromper de combat. Après, la discussion rationnelle est à bannir. Il y a une première chose, ne jamais dire qu'il est dans une secte, c'est pas la peine, parce qu'il a été prévenu en général qu'on allait lui dire ça, donc si on le fait, ça va évidemment confirmer ce qu'on lui a dit à l'intérieur. Et ensuite, la discussion rationnelle est vraiment impossible, parce que plus on va donner d'arguments, et plus il va aller en chercher, et plus donc il va renforcer sa croyance. Mais il faut essayer de garder des petites touches, si on peut, hein, des petites touches d'ouverture par des questions ouvertes, pas l'obliger à répondre, mais des questions qui ou des remarques qui remettent un peu d'ouverture en disant que peut-être d'autres personnes pensent autrement, peut-être on peut voir les choses comme ceci, mais poser une question, mais pas l'obliger à répondre surtout, parce que la discussion rationnelle, ça va multiplier les arguments. Et enfin, c'est vrai, vous l'avez dit, et c'est fondamental, tout faire pour ne pas couper le contact, alors que par derrière, l'emprise, elle va effectivement, progressivement, comme je vous le disais tout à l'heure, le conduire à éviter les gens qui pensent pas comme lui, pour pouvoir le garder bien enfermé dedans. Et ça, c'est propre un peu à chaque situation. Quand on vit encore ensemble, eh bien, il faut essayer de développer les moments qui sont neutres, je dirais, où on ne parle pas du sujet et où on a simplement des moments habituels de vie en commun, dans la famille, etc. On a par exemple des grands-parents qui nous contactent et qui sont coupés de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Essayer de continuer à envoyer des signes de façon régulière, soit des courriers, soit des SMS, soit des téléphones. Mais je sais très bien que la personne sous emprise peut vous bloquer sur son téléphone. Hein. Voilà, c'est vraiment ce contre quoi il faut essayer de lutter pour garder le contact, pour plusieurs raisons. C'est compliqué, hein, parce que garder le contact avec quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir et qui n'a pas envie de discuter avec vous, c'est une épreuve, hein, bien sûr. Mais ça va être un moyen de quand même pouvoir essayer de contrôler l'aspect financier, vérifier que quand même il ou elle n'arrête pas son travail, n'a plus de revenus, ne donne pas tout son argent au gourou. Vérifier son état de santé, c'est-à-dire que si tout d'un coup il est dans une situation qui vous inquiète vraiment, avec un arrêt de médicaments dans le cas d'une maladie qui en nécessite, avec un amaigrissement ou des signes de mauvaise santé qui sont préoccupants et que il ne soigne que avec son praticien de soins non conventionnels. Vous voyez, ces aspects-là, il n'y a que quand on les voit qu'on peut savoir. Et puis, enfin, garder le contact parce que s'il a un doute, s'il est viré du groupe, parce que ça arrive aussi quelquefois, qu'il puisse revenir auprès de personnes qui ne l'ont pas rejeté. Ça, c'est vraiment important.
Donc surtout, finalement, l'erreur à ne pas faire, c'est de rompre le contact au point, par exemple, de se disputer avec la personne et que cette personne ne veuille plus du tout nous voir et qu'on ne puisse pas nous garder un œil sur sa vie.
Oui, alors c'est vrai que, comme vous le dites, bon, c'est l'erreur à ne surtout pas faire. Disons que c'est la ligne de conduite parce que en même temps, il me semble, mais ça c'est un peu personnel, c'est aussi le respecter que de lui dire à certains moments que là, il exagère vraiment. Vous voyez, je veux dire, on n'est pas forcé non plus d'accepter. D'abord, on n'est pas forcé de dire qu'on croit à ce qu'il croit. On peut continuer à dire, ben moi, voilà, je n'adhère pas, et continuer à pouvoir parler d'autre chose. Mais c'est une ligne de crête qui est compliquée parce que on n'est pas forcé de se faire marcher dessus et de se faire entraîner dedans non plus. Donc, il y a une gestion. Pour moi, c'est de la stratégie, mais elle est fondamentale.
Et alors, dans tout ça, en tant que proche qui voit une personne sombrer, comment on peut garder le cap, garder le moral?
Alors, c'est une bonne question et elle me paraît aussi très importante. C'est-à-dire que souvent, quand la situation est assez radicale comme ça, moi, il m'est arrivé de dire aux personnes, ben là, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, je comprends très bien. Hein. Et donc, c'est comme l'annonce parfois d'une maladie très grave ou des choses comme ça. Donc, il faut arriver à gérer cette situation qui est un accident de la vie, en le prenant au sérieux, en ayant effectivement la possibilité de rencontrer peut-être d'autres personnes qui vivent la même chose, hein, ça arrive, ou en tout cas de pouvoir en discuter et en parler quand c'est trop lourd, soit quand on suit des personnes qui viennent nous voir, ben on en reparle de temps en temps, ils nous appellent, nous donnent des nouvelles, etc. Soit pour un certain nombre, avec l'aide d'un psychologue, un certain nombre de proches le demandent d'ailleurs, pour arriver à peut-être remanier un peu leur relation avec ce proche et qu'ils ont besoin d'aide. Voilà. Et puis, essayer de continuer à être solide. Mais ça ressemble un peu aux conseils qu'on pourrait donner justement à des proches de malades graves pour tenir le coup. Avoir l'espoir que si la théorie est vraiment trop cinglée, ils vont en sortir, mais en ne sachant pas quand. Donc, en s'installant dans une stratégie où on va essayer de garder le contact, ça va pas toujours être facile. Malheureusement, moi, je connais des personnes, je pense à une mère qui a un fils unique, elle l'a pas vu depuis 15 ans, quoi, hein. Voilà. C'est pas facile, mais elle continue à se battre et à espérer que peut-être un jour, il lui écrira autrement que des lettres qui commencent par madame, ou pas du tout. Et en même temps, certains vont en sortir peut-être assez vite, d'autres ne vont jamais en sortir et vont devenir des proches du gourou, mais peut-être que un bout de contact restera quand même toujours. Voilà. C'est plein de points d'interrogation. Et il peut être intéressant aussi d'interroger, mais ça c'est plutôt au début, d'interroger ce proche sur ce qu'il trouve dans ce mouvement. Donc, en essayant d'interroger, il faut être en forme à ce moment-là, sans juger, mais pour comprendre ce que la proposition a touché en lui. Parce que s'il est rentré, c'est qu'il y a eu une rencontre d'une demande, d'un besoin ou d'un intérêt avec une proposition.
C'est bien la preuve qu'il y a eu quelque part à un instant T une affinité à un endroit très précis.
Oui, et c'est pour ça que c'est compliqué. Même après, devant la justice, c'est que l'entrée s'est faite librement. La personne, on l'a pas ligotée pour aller croire. Alors on dit, et c'est vrai, c'est un certain nombre de cas, c'est à des moments peut-être de vulnérabilité, après un deuil, un chômage, une maladie, un certain âge où on remet en cause un certain nombre de choses, que ce soit des jeunes adultes, que ce soit vers 40, 50 ans, etc. C'est vrai, tout ça c'est exact. Mais vous savez qu'on peut aussi rentrer dans un mouvement sectaire par curiosité, hein, tout simplement. Alors est-ce que la curiosité c'est de la vulnérabilité? Je sais pas. Simplement, voilà, la proposition, j'ai souvenir d'une jeune femme qui est devenue scientologue, qui y a passé pas mal d'années avec quand même beaucoup de grabuge, elle en est sortie après, mais elle racontait qu'un ami lui avait prêté le livre de base de la scientologie, la Dianétique. Elle a lu ça, c'était un moment où ça lui a parlé, et elle s'est dit, si c'est vrai, c'est extraordinaire. Et donc, elle est allée voir dans une église de scientologie en France, elle est allée rencontrer, et bien, elle est rentrée en scientologie. Et après, elle s'y est mariée, elle y a eu des enfants. Donc, il ne me semble pas, dans ce qu'elle raconte, que c'était vraiment de la fragilité, mais c'était de la curiosité pour une théorie originale.
Une nouveauté, une théorie, oui, quelque part inédite.
Oui, c'est ça. C'est vrai que quand un proche, je dirais, s'intéresse beaucoup à quelque chose qui est très nouveau et qui est très parallèle à sa vie jusque-là, peut-être on peut donner ça comme conseil. Hein. D'abord, pour la personne qui s'intéresse à une nouvelle théorie, je suis toujours un peu ébahie de me dire, on prend beaucoup de précautions pour acheter un frigo, une voiture, on va sur plein de sites, on fait du comparatif, etc. Puis c'est normal, hein, voilà. Mais quand on va livrer sa personne physique avec un thérapeute physique ou psychologique, on va faire confiance sans prendre aucune information. On va dire simplement, quelqu'un m'a dit que c'était bien. Donc, les seules preuves, c'est les témoignages d'un proche, par exemple, ou des choses comme ça. D'ailleurs, si vous allez sur les sites de thérapeutes, même sur les pages jaunes, après, vous voyez tous les avis, et c'est ça qui marque. C'est les avis de dire, il est formidable, il est très bien, etc. Si vous voulez, c'est pas une preuve. Il faut essayer quand même de se renseigner, et souvent, on peut le faire, sur la formation, la pratique, les origines de la doctrine, prendre de l'information avant. Et c'est valable autant pour la personne qui est séduite par quelque chose que pour les proches, pour essayer de se renseigner et peut-être de trouver quelque chose qui serait moins sectaire dans le cas où c'est vraiment un mouvement ou une doctrine qui est connue comme un risque.
J'ai une dernière question pour vous, Madame Drion. Est-ce que dans tout ça, on a des exemples heureux, finalement, des exemples qui peuvent donner espoir de personnes tombées dans des sectes et que les proches ont réussi à accompagner dans leur sortie?
Oui, il y en a. On connaît des personnes, dans celles qui sont venues dans les bénévoles et puis même autour de nous. Enfin, on sait que certains voilà, ont quitté le mouvement où ils étaient ou sont revenus à autre chose. C'est vrai que moi, je ne vais pas mentir aux personnes qui viennent nous voir en leur disant « Oui, vous y arriverez. » Je n'en sais rien. C'est de l'ordre de la liberté de la personne qui est dedans aussi. Et c'est pour ça que c'est un sujet délicat. Parce que, contrairement à ce que certains disent en disant qu'on est en dictature, non, on n'est pas en dictature. On a vraiment en France une liberté de croyance. Et donc, le respect de cette liberté de croyance, et bien sûr, elle a des limites par rapport à la liberté d'autrui, mais il fait que il n'est pas question d'interdire un groupe uniquement parce qu'il a des croyances farfelues. Donc, c'est la connaissance de l'emprise avec son phénomène de contrôle extensif de la vie de l'adepte qui permet d'essayer de mettre des contre-feux. Quand vous avez bien compris ça, vous essayez de profiter des moindres espaces ou de susciter tout d'un coup une réunion avec des amis, enfin c'est ce que j'appelle la stratégie. Et il y a des gens qui sortent, oui, mais on ne les a pas sortis, on a aidé à ce que les conditions d'interrogation personnelles soient suffisantes pour qu'ils sortent. Et après, là c'est pas fini du tout, parce que si ils y ont passé pas mal de temps, qu'ils y ont donné beaucoup d'argent, leur personnalité est profondément touchée, leur portefeuille aussi probablement, leurs conditions de vie. Et là, il faut un accompagnement sur la durée, parce que comme on a l'habitude de dire, ils sont sortis de la secte, mais la secte n'est pas sortie d'eux.
On l'entend bien dans la voix de Marie Drion, les conseils à suivre lorsqu'on a dans notre entourage une personne victime d'une secte ne sont pas forcément simples. Montrer à la victime qu'il y a d'autres visions du monde, sans forcément la heurter et rompre avec elle le dialogue, être à ses côtés pour pouvoir garder un œil sur son mode de vie sans pour autant approuver ce dernier, Voilà autant de préconisations qui peuvent sembler difficiles à appliquer tant elles demandent de pouvoir prendre sur soi, garder son calme et faire preuve de discernement face à une personne qui a, elle, perdu son libre arbitre. Mais dans ces situations, les familles ne sont pas seules et un accompagnement est possible. Alors si vous êtes concerné par ce cas de figure, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Miviludes, qui observe et analyse le phénomène sectaire, coordonne l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires, ou encore l'une des associations partenaires de la Miviludes. Dans un prochain épisode, nous élargirons le débat en parlant, cette fois, des enfermements mentaux qui empêchent plus généralement d'avoir un rapport sain et spontané à l'alimentation. Restez à l'écoute. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Nella Acmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.